Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, lorsque Monseigneur Lefebvre expose ce qu'est la création, il va droit à la communication de l'amour de Dieu. Dans ce petit livre, Itinéraire spirituel, il vient d'étudier la Trinité qu'il présente comme la grande richesse, le grand foyer d'amour. Et aussitôt, au lieu de rattacher la création à Dieu un, comme on le fait d'habitude, il rattache la création à la Sainte Trinité comme une communication de cet amour qui unit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est évidemment saisissant et je vous invite à lire le texte de Monseigneur Lefebvre que je mets ci-dessous sur le site. Mais si nous voulons entrer dans une considération profonde de cet amour de Dieu qui se communique dans la création, il faut que, avec saint Thomas d'Aquin, nous examinions un peu plus la profondeur et l'ampleur de la création divine. On ne peut pas avoir la richesse de l'amour de Dieu dans les œuvres sans d'abord voir les œuvres elles-mêmes, ce que Dieu a fait. D'ailleurs, je vous le rappelle, saint Ignace de Loyola, pour achever ses exercices spirituels, pour nous mener à la perfection qu'il attend de nous, nous fait justement considérer les œuvres de Dieu en nous. C'est le meilleur moyen de voir tout ce que nous devons à Dieu et par conséquent de lui rendre amour pour amour. Or, Dieu nous a donné notre nature, l'existence, et il est même l'auteur de toutes nos opérations, nos actions et nos pensées. Nous savons bien que Dieu nous a donné notre nature. Il a créé notre âme. Notre âme étant un esprit, ne peut pas être transmise par les parents qui ne font que transmettre le corps, la vie corporelle. Notre âme a été créée par Dieu avec son intelligence, sa volonté, toutes ses qualités. Cela, je n'insisterai pas parce que vous le savez. Mais Dieu a également créé notre corps. Il l'a créé de deux façons, si je puis dire. Tout d'abord parce qu'il l'a fait selon le modèle de sa sagesse. Un architecte est beaucoup plus le créateur d'une église ou d'une cathédrale que ne le sont les maçons. Le plan, la beauté, l'harmonie, tout cela, c'est l'architecte qui le fait. Les maçons ne font qu'exécuter. Et puis, vous le savez bien, les parents ne font que transmettre une vie qui n'est pas à eux, qu'ils n'ont pas créé, et donc ils ne peuvent pas créer notre corps. Il ne faut pas passer trop vite sur ces considérations. Ce n'est pas l'objet du sermon, mais si vous reprenez la dernière méditation de saint Ignace, nous nous rendons compte que nous avons reçu de Dieu des dons pour les faire fructifier, pour l'honorer, le louer, le servir, Dieu. Et donc nous devons honorer, louer, servir Dieu avec notre intelligence, avec notre volonté, avec nos connaissances, avec notre sensibilité, avec toutes les qualités que nous avons en commun avec tous les hommes, et puis avec les qualités qui nous sont propres. Dieu a multiplié les richesses, la variété des richesses chez les hommes pour que chacun tienne sa place dans la création. Et si nous ne le faisons pas, ce n'est pas simplement que nous commettons un péché qui risque de nous envoyer au purgatoire ou en enfer, c'est que il y a un trou dans la chrétienté, un trou dans l'Église, un trou au milieu de nos prochains, parce que ce que nous devions faire, que Dieu nous avait donné de faire, nous ne le ferions pas. Mais je voudrais insister sur autre chose. Dieu nous a donné notre existence. Nous ne sommes pas habitués à distinguer la nature et l'existence. Et pourtant, c'est très important, parce qu'une nature existe, mais peut ne pas exister. Alors, cette existence, cela donne-t-elle elle-même? Elle ne peut pas, parce qu'elle serait Dieu. Seul Dieu est par soi-même. Dieu existe parce qu'il est Dieu. Nous n'existons pas parce que nous sommes des hommes, nous existons parce que Dieu nous a donné l'existence. Bien sûr, nous trouvons normal d'exister, mais il faut quand même nous attarder là-dessus, parce que si on ne voit que la nature, on dira Dieu nous a créés, comme la cigogne a apporté le petit garçon dans les choux, ou dans son berceau, peu importe, et puis après ça, la cigogne est repartie. Mais ce n'est pas cela. Il faut que notre nature continue à exister et qu'il lui donne cette existence, puisque tout ce qui est vient de Dieu. Et par conséquent, il ne faut pas dire que Dieu a créé, mais que Dieu crée. Dieu crée continuellement, il nous maintient dans l'existence, et s'il cessait un instant de penser à nous, nous tomberions dans le néant. Les enfants du catéchisme, quand on leur parle de tomber dans le néant, ils imaginent un trou très grand, très profond, dans lequel on tomberait. Mais ça, ce n'est pas le néant, c'est encore quelque chose. Non, tomber dans le néant, ça serait cesser d'exister, disparaître totalement. Imaginez une maman qui aurait eu 4 enfants, par exemple. Si Dieu cessait de penser à l'un des enfants, on demanderait à cette maman, « Madame, combien avez-vous eu d'enfants ?» Elle vous répondrait 3. Comment pourrait-elle penser à quelqu'un à qui Dieu ne pense pas ? Vous allez me dire que mon exemple est un peu ridicule. Bien sûr, quand on arrive à la racine des choses, il est difficile de donner des exemples, parce qu'il n'y a rien qui ressemble vraiment à la création. La source de la présence de Dieu, vivre en présence de Dieu, se trouve dans cette considération. Dieu me tient tout le temps dans l'existence. Et si, au-delà de nous-mêmes, nous considérons Dieu qui tient dans l'existence tous les êtres, pas seulement les êtres matériels, pas seulement le ciel et la terre, mais également les anges, les autres hommes, la Sainte Église, nous vivons dans un monde sacré, d'où l'importance du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, pour rétablir le caractère sacré de ce monde qui a été profané par le péché. C'est l'intérêt d'étudier la création. Et c'est pourquoi Mgr Lefebvre y consacre plusieurs pages dans un livre qui est, somme toute, fort bref, fort petit. C'est qu'il faut voir le plan sacré de Dieu. Or, ce plan a été profané par les hommes, et c'est par Jésus-Christ et par le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ qu'il sera consacré à Dieu de nouveau, rendu à son caractère sacré. Mais cela, je vous en ai déjà parlé lorsque je vous ai parlé du sacrifice eucharistique. Je vous ai dit que le sacrifice fait du sacré. Il consacre. Et le prêtre est celui qui travaille à restaurer cette consécration, cette chair d'os, il donne le sacré. Quant aux fidèles, ce n'est pas pour rien qu'ils reçoivent, le jour du baptême, l'huile sainte, le Saint-Crème, qui fait les rois, les évêques, l'huile de la confirmation, l'huile royale et sacrée par excellence. Vous avez un petit enfant, un petit bébé, qui vient juste d'être purifié du péché originel par l'eau du baptême, et voici que, aussitôt, le prêtre, au sommet de la tête, lui verse l'huile du Saint-Crème. Mais je voudrais vous faire une troisième considération, mes bien chers frères. Dieu est l'auteur premier de toutes nos actions, de toutes nos opérations, et même de toutes nos pensées. Vous vous rappelez que nous avons commencé par cela, l'épreuve de l'existence de Dieu. Nous avons commencé par le plus simple, nous avons vu qu'il y avait du changement, et nous nous sommes dit, mais d'où vient ce changement? Quelqu'un ou quelque chose acquiert une qualité qui lui manquait, d'où cela lui vient-il? Et nous en avons conclu que cela venait nécessairement de Dieu, qu'on ne peut pas se donner à soi-même une qualité qu'on n'a pas. Alors vous vous réveillez le matin, vous dites, c'est normal. Et si on vous demande pourquoi vous vous réveillez, vous dites, c'est les rythmes biologiques. Mais pourquoi les rythmes biologiques vous réveillent-ils? Et puis, comment un rythme biologique suffit-il à réveiller notre pensée? Et puis, vous savez bien qu'il nous arrive d'avoir des inspirations du Saint-Esprit. et nous savons bien qu'elles ne viennent pas de nous. Mais nous devrions faire attention et nous rendre compte que tout ce qui arrive dans notre pensée, tout ce qui arrive dans notre cœur, a Dieu pour auteur, c'est comme un cadeau qui nous est fait, qui nous est confié, qui devient nôtre, bien sûr, qui est à nous. Une fois qu'il est donné, il est à nous. Mais ce n'est pas parce qu'il est à nous qu'il cesse d'être à Dieu. Et c'est pas parce que nous le faisons nôtre qu'il ne vient pas en tout premier de Dieu. Parce que nous serons jugés sur nos actions, nous avons tendance à voir ce que nous-mêmes, nous en avons fait, mais nous oublions qu'elles sont d'abord des dépôts de Dieu. C'est la parabole des talents. Et certainement, nous serions plus attentifs à la qualité de nos actions, à faire ce que Dieu attend de nous, si nous voyions que c'est des talents qui nous ont été confiés pour les faire fructifier, mais qu'ils appartiennent à Dieu, au Seigneur. Cela, évidemment, soulève immédiatement la question de la liberté. Le catéchisme du Concile de Trente ne s'étend pas sur cette question. Il dit que Dieu crée en nous la liberté, et cela lui suffit, et cela, je crois, doit effectivement suffire à tous les bons chrétiens. Il y a des mystères que nous devons recevoir de Dieu, accepter comme venant de Dieu, et il est bien plus important à faire bon usage de notre liberté qu'à voir comment elle s'articule avec la toute-puissance de Dieu. Je vous ai fait un sermon sur la liberté et je vous invite à vous y reporter pour bien comprendre ce qu'est la liberté, qui n'est évidemment pas la faculté de faire le bien ou le mal, de choisir entre le bien ou le mal, comme si Dieu pouvait nous donner de choisir le mal. Alors, mes bien chers frères, travaillons à faire bon usage de notre liberté. Cela est déjà suffisamment exigeant, suppose de notre part suffisamment d'efforts, d'intelligence des choses, de soucis, de prévoyance, pour que nous ne perdions pas notre énergie à savoir comment nous sommes libres bien que Dieu soit l'auteur de toutes choses. Le meilleur moyen, la meilleure manière de consacrer nos actions à Dieu, c'est-à-dire de répondre au don de Dieu, c'est la consécration à la Très Sainte Vierge Marie, dans laquelle Saint Louis Grignon de Montfort nous fait donner principalement nos intentions, de façon à ce que ce soit la racine même de notre volonté et de notre liberté qui soit entre les mains de la Sainte Vierge. Et puis, mes bien chers frères, il y a une dernière difficulté, c'est le problème du mal et notamment du péché. Le vrai mal, c'est le péché. Et alors, vous allez vous poser la question, si Dieu est l'auteur de tout, de toutes mes pensées, de toutes mes actions, alors il est donc aussi l'auteur du péché, de mes péchés et de mes mauvaises actions. Non, bien sûr, nous verrons cela lorsque nous étudierons un peu plus en détail la question du mal. Et nous verrons cette doctrine qu'on peut résumer avec la formule suivante. Tout le bien qui est en l'homme vient de Dieu, tout ce qui vient de l'homme seul, c'est le mal. Voilà, mes bien chers frères, ce que j'avais à vous dire. Et si je voulais me résumer, je vous dirais, faisons l'inventaire de tout ce que nous recevons de Dieu. Ne nous contentons pas d'une considération globale. L'intérêt d'étudier la création, c'est de détailler les dons de Dieu. D'habitude, on étudie surtout les dons naturels, puisque la création est une œuvre naturelle. Et puis, les dons surnaturels, on les réserve pour la grâce, avec tout le cortège de la grâce. Mais Mgr Lefebvre nous demandait de ne pas les séparer. La nature est faite pour la grâce. La grâce est également un don de Dieu créé en nous. Nos vertus sont des dons de Dieu créés en nous. Bien sûr, ces dons ont pour but une union directe avec la très sainte Trinité et vivre en la sainte société du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et Dieu lui-même se donne, mais pour que ce don soit réel, il repose surtout les dons créés par Dieu, mis en nous par Dieu, et auxquels nous devons prêter attention. Que Dieu vous bénisse, soyez bien consacrés à la Très Sainte Vierge, Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.